Cap-Cap.
Gilles Labourroir.
Jacques Lavergne. Aujourd'hui, Cap-Cap thématique, nous poursuivons avec mon camarade Gilles Labourroir l'histoire des Jeux Olympiques et nous sommes au deuxième épisode aujourd'hui. Nous allons vous parler de ce qui se passait à Londres en 1948 et puis on ira tout doucement jusqu'en 72 et peut-être à la fin de la guerre froide. Bonjour Yves Labourroir.
Bonjour Labourroir. Jacques.
Pourquoi je vous appelle Yves, c'est décidément.
Yves du Manoir.
Voilà, c'était peut-être ça.
Voilà.
Alors nous vous retrouvons pour poursuivre notre exploration historique des JO et on se retrouve...
Après-guerre.
Après-guerre, c'est 1948.
À Londres.
C'est Londres, alors que comment ça s'est passé? Parce que là on sortait
du conflit. Hein. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale et surtout de 60 millions de morts.
Oui, ce qui n'est pas rien.
Ce n'est pas rien. Et il a fallu quand même 3 ans, 29 juillet 1948. Alors bien sûr, les perdants de la guerre, l'Allemagne et le Japon sont absents. La Russie de Staline est excusée, l'URSS de Staline est excusée.
Il n'y a pas encore eu le temps de se doper.
Voilà, peut-être, on y reviendra sans doute, parce que les années 70 sont quand même, quoi qu'on dise dans le bloc communiste, des années de dopage. On va dire que les Jeux sont télévisés pour la première fois, et qu'il y a... pas mal d'innovations techniques, technologiques, comme par exemple la photo finish et le pistolet de départ. On va dire aussi que ces jeux, c'est quand même le jeu des femmes, parce qu'il a fallu quand même, les femmes ont pris en charge l'absence des hommes durant la guerre. Nombre d'entre elles se sont illustrées dans la résistance, elles ont obtenu en France le droit de vote en 1944. Donc il y a à la fois l'aspect féminin, les femmes, et puis aussi, très important, 1948, c'est la naissance des Jeux paralympiques. Donc il faudra qu'on en parle un petit peu. Donc si jamais nous commençons par les femmes, il y a deux personnalités qui émergent. D'abord, une Hollandaise qui s'appelle Fanny Blankers. C'est surprenant, mais elle a 30 ans. Elle a 2 enfants, on l'appelle la ménagère volante. Elle gagne 3 médailles d'or et elle bat des filles qui avaient 20 ans à l'époque. Donc, ça a été assez impressionnant, cette Fanny Blankers-Cohn. Et puis surtout aussi, côté français, Micheline Ostermayer, très importante, puisque on la connaît en tant que pianiste surtout. Elle gagne le lancer du poids, le lancer du disque, elle lance à 40 mètres. Et puis, elle est médaille de bronze du saut en hauteur. Alors, Michèle Ostermayer, c'est un symbole parce que...
Mais comment ça se fait qu'elle avait autant de disciplines? C'était alors, pas le pentathlon, ni le décathlon, ni...
Non, ils n'apparaissent pas encore à l'époque. Le pentathlon le pentathlon moderne existe en tant que plusieurs activités, l'escrime, l'équitation, en résumé de tout ça. Mais ce qu'on appelle l'heptathlon, les 7 épreuves féminines en athlétisme, ou le décathlon, ça arrivera, c'est arrivé pour les hommes, mais pour les femmes, ça n'arrive pas encore. Donc les femmes, elles lancent le poids, elles lancent le disque. Alors, c'est l'époque encore où il y a de l'adresse. Parce que je vous disais que ce qui caractérise Michèle Ostermayer, c'est qu'elle est pianiste. Donc elle manie 80 touches d'un piano et elle manie aussi le lancer du disque. Elle disait que l'un allait avec l'autre. Elle faisait aussi du basket, c'était très important à l'époque pour les filles. Elle a la particularité d'être de père alsacien et de mère bretonne, et surtout née dans le Pas-de-Calais, mais elle a vécu en Tunisie. Et ses grands-parents connaissaient Camille Saint-Saëns. Donc, elle a été initiée à la musique. Et son professeur, d'ailleurs, Lazare Lévy, est un juif rescapé des rafles. Et le plus important aussi qu'il faudra dire, c'est que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Son mari est décédé d'un cancer foudroyant en 1956 et elle a eu son fils assassiné en 1990. Et quand on va à l'INSEP actuellement, on a son geste qui est immortalisé par une statue en bronze de Jacques Chestalder. Elle est décédée en 2001 à l'âge de 78 ans. Et surtout, De Gaulle, il disait à l'époque, enfant de France, rêvaient tous de devenir des Michel Ostermeyer. Donc ça reste vraiment un grand symbole.
Michel au niveau de la féminisation.
Oui, au niveau de la féminisation. Les femmes, on l'avait vu la dernière fois, avaient commencé à être présentes en 1928 à Amsterdam. Mais là, elles émergent, quoi. Enfin, elles émergent. On va dire qu'elles... on va dire qu'il y a... Dans les athlètes, il y a une femme sur 10. Mais dites-moi aujourd'hui, si, quand on regarde les sports télévisés, combien représente la radiodiffusion des jeux féminins ? 18%, vous voyez. On n'a pas non plus trop avancé au niveau de la visibilité à ce niveau-là. La deuxième chose, je ne sais pas si on peut parler, mais ce qui me semble important à Londres 1948, c'est les Jeux paralympiques.
Alors justement, ces Jeux paralympiques, qui c'est qui les a inventés ? Pourquoi ? Est-ce que c'est au sortir de la guerre ? Il y avait beaucoup d'athlètes qui sont revenus
handicapés
et donc
paralysés.
C'est pour ça que l'on a créé...
Oui, parce qu'on voulait faire mieux que ce qui s'est passé en 14-18. Et le CIO a été marqué un peu par tous ces gens qui avaient subi la guerre de 14-18, qui en étaient revenus vraiment sur des chaises roulantes, etc. Alors, les Jeux paralympiques, c'est dans un hôpital, et c'est dirigé par un homme qui s'appelle Ludwig Guckmann, qui a une histoire simple, c'est un Allemand, bon, qui est d'un milieu modeste, il est né en 1899, il est infirmier sur le front allemand en 14-18, puis il devient médecin. C'est un juif. Hein. Et l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933 fait qu'il est obligé de s'exiler. Et il arrive en Angleterre et il est citoyen britannique en 1945. Donc c'est lui, ce Ludwig Guckmann, qui invente les Jeux paralympiques. Mais qui débute simplement dans la banlieue londonienne, exactement l'endroit, c'est Stoke-Mandeville. Il y a que du basket et que du tir à l'arc. Alors que le vrai paralympisme, les vrais Jeux paralympiques, avec tout plein d'épreuves, eh bien, elles interviendront dans les années 60, à Rome. On y reviendra, parce qu'à Rome, on est dans la foi de l'avenir, donc on y intègre plus les handicapés.
Ah, j'imagine qu'en 48, ils n'ont pas eu trop le temps de se préparer non plus. On ne va pas aux Jeux olympiques sans une préparation sérieuse.
Tout à fait.
On sortait de la guerre.
Oui.
Comment ils ont pu se... arriver à s'entraîner, ils ne s'entraînaient pas pendant les hostilités.
Oui, 16 archers, 14 hommes et 2 femmes, et un peu de basket, c'est tout. C'est les prémices.
Ouais.
Mais c'est pour signaler quand même la personnalité importante et le trajet de Ludwig Guckmann.
Donc voilà. Que l'on ne cite jamais.
Que l'on ne cite jamais, évidemment.
Nous avons réparé cette erreur.
Voilà. Et après, je pense qu'on peut aller... Je retiendrai ça de Rome 1948... Après Jacques, si vous voulez, on pourrait passer à Helsinki, 1952.
Eh bien, allons au Grand Nord.
Voilà. L'autre jour, vous me parliez des Jeux d'hiver. Chaque année, lors des Jeux olympiques d'été, l'hiver, il y avait les Jeux olympiques d'hiver. Hein. En 1952, on est à Helsinki en été, mais en hiver, on était à Oslo pour les Jeux d'hiver. Hein, voyez.
Et qui c'est qui les a initiés, vous le savez, ces Jeux
c'est
d'hiver
le CIO aussi.
C'est le CIO, pareil.
C'est le CIO, bien sûr. Les premiers Jeux d'hiver, c'est 1924, Chamonix. Et celui qui l'a initié, c'est Franz Reichel. C'est quelqu'un qui jouait au rugby, on en a parlé la dernière fois, qui était capitaine de l'équipe de France en 1900. Et puis finalement, c'est lui qui s'est occupé, à la demande de Coubertin, de l'instauration de ces Jeux d'hiver, qui ont moins d'importance, évidemment. Mais les Jeux d'hiver, on y viendra. Les Jeux d'hiver apparaissent aussi, la guerre froide apparaît aussi dans les Jeux d'hiver. On y reviendra avec, dans les années 80, à Salt Lake City, quand l'équipe américaine, pour la première fois, bat l'équipe de hockey. Jimmy Carter appelant l'entraîneur américain, lui disant, Brooks, il s'appelait d'ailleurs, et lui disant, il était très content, Jimmy Carter, que pour la première fois, les États-Unis, en 1980, à Salt Lake City, aux États-Unis, battent la grande équipe de Russie, et lui dit, bravo, extraordinaire, etc. Et l'autre lui dit, j'ai simplement fait mon travail. Voilà. En 1952, ce qu'il faut retenir, c'est la première participation de l'URSS. Voilà. Les athlètes russes sont même logés dans un village olympique indépendant des autres.
Ah, on ne se mélangeait pas.
On ne se mélangeait pas, même si les médias américains vous montraient des photos de fraternisation. Alors, les Russes, quand ils viennent avec de la grosse cavalerie. il remporte pas mal de médailles. Les femmes sont très musculeuses. Par exemple, je parlais tout à l'heure du record du disque de Micheline Ostermayer, 41 mètres. Là, nous sommes à 51 mètres.
Ah oui, 10 mètres de c'est plus. Quand même pas rien. Oui.
Voilà, c'est extraordinaire. Mmh. C'est, voilà.
Et Micheline Ostermayer était...
Non, elle n'était plus dans...
Elle avait certainement, sans beaucoup plus
pure... Elle était pianiste
que,
maintenant.
Que ne l'étaient les athlètes du RSS.
Tout à fait. Alors, en 52, on va parler surtout d'Emil Zatopek. C'est un Tchèque qui remporte 3 médailles d'or. Ce qui n'a jamais été fait à l'heure actuelle, sur 5000 mètres, sur 10000 mètres, et surtout sur le marathon. Donc... Zatopek, évidemment, c'est l'adversaire de Mimoun, on le verra. Là, pour le moment, c'est lui qui l'emporte. Et quand il va gagner ce marathon, il a en tête un coureur finlandais dont on n'a pas beaucoup parlé la dernière fois, Paavo Nurmi, c'est la référence. Il avait gagné 5 médailles d'or à Paris 1924. Et donc là, Zatopek, vraiment, c'est impressionnant. On l'appelait la locomotive parce que quand il avançait comme des wagons, tout le monde le suivait. Il avait, à l'époque, il avait mis au point des types d'entraînement très durs. Hein. Il faisait presque un marathon chaque semaine à l'entraînement. Donc lui, il vient d'un milieu, il est né en 22, dans une région de Moravie-Silésie, dans une famille très modeste, il est sixième enfant, c'est toujours comme ça les histoires de l'athlétisme ou du sport. Son père était charpentier et il devait travailler dès l'âge de 16 ans et dans des usines de chaussures. Et le soir, il étudiait la chimie. Et en 45, après son service militaire, il continue carrière militaire. Donc, son titre olympique l'amène à être colonel dans l'armée. Donc, il travaille au ministère de la Défense jusqu'à ce fameux printemps de Prague, qui est un peu une période de l'histoire de la République socialiste tchécoslovaque qui ouvre vers ce qu'on appelle à l'époque un socialisme à visage humain du 25 janvier 68 et la fin du printemps de Prague, c'est l'invasion du pays par les troupes du pacte de Varsovie le 21 août 1968. Donc, pour avoir soutenu le printemps de Prague, Zatopek, qu'est-ce qu'il fait? Il est radié du Parti communiste, il est radié de tout. Il est condamné à ne plus rien faire. Et on le retrouve éboueur à Prague, même dans des usines d'aluminium. Et j'aime cette phrase de Monterland à l'époque qui avait écrit « La liberté existe, il suffit simplement d'en payer le prix ». Mais en 75, il est réhabilité, on le retrouve archiviste au ministère des Sports. En 88, il accède à une reconnaissance nationale avec l'arrivée au pouvoir du président intellectuel Václav Havel. Donc c'est la révolution de velours. Donc il va connaître la fameuse séparation entre la République tchèque, capitale Prague, et l'autre pays qui s'appellera la Slovaquie, capitale Bratislava. Il décède en 2000, il avait 78 ans. On dira que les légendes ne meurent jamais. Donc je voulais raconter son histoire parce que quand il a gagné, par exemple, sur la piste le 5000 mètres, devant Mimoun d'ailleurs, en 52, tout de suite après, il assiste au couronnement de son épouse Dana, qui est championne olympique du javelot. Voilà, c'est aussi des histoires...
De famille.
De famille, voilà. Mais en 52 aussi, pour toujours une histoire de famille... On a tous entendu parler du Bordelais Jean Boiteux, qui est champion olympique du 400 mètres libre. Et qu'est-ce qu'on voit comme image? C'est son père, Daniel, qui se jette habillé dans la piscine.
Dans la piscine, voilà. Oui.
Mais l'histoire de Boiteux, on pourrait en rediscuter, je n'ai pas mis le focus là-dessus, mais il a une histoire aussi, fils d'agriculteur, il s'entraîne dans la piscine de son père qui avait des porcs, donc une rétention d'eau. Son père voulait en faire un grand champion parce que lui n'avait pas été un grand champion. Donc c'est une histoire qui mériterait d'être racontée, mais j'ai préféré m'arrêter sur quand même quelqu'un qui va rester quand même dans l'histoire, Emil Zatopek.
Donc Emil Zatopek, il a été quand même un peu... martyrisé chez lui, oui. Quelque peu, hein, oui. Dégradé, renvoyé, oui. dans le bas de la société.
Tout à fait.
Il a dû vivre extrêmement durement cette période.
Oui.
Et il a continué quand même à faire du sport.
Il a continué à faire du sport, mais si vous voulez, lui, sa fin de carrière, c'est les années 60. Là, on est en 68. Donc, il est...
Oui, c'était terminé.
Il a été... il avait suivi à l'époque le réformateur Alexander Dubček et il en a payé le prix, comme on dit. Oui, bien sûr.
Donc, il a écouté Monterland.
Et je citais Monterland, parce que d'abord, Monterland aime le sport, on en parlait la dernière fois, c'était un écrivain du sport, Henri de Monterland.
Alors on poursuit.
56. On peut à pas de géant, comme vous dites, à pas de.
Je ne sais plus quoi.
La phrase de Montaigne.
Ah, la phrase de Montaigne, c'est à saut et à gambade. Voilà. Mais on ne va pas de gauche et de droite, nous allons tout droit. Voilà. Et nous remontons vers notre époque.
Eh bien justement, on est en 1956 à Melbourne.
Et Australie.
Et on est exactement le 22 novembre 1956. Et on va s'arrêter sur une demi-finale de water-polo entre la Hongrie, qui a été envahie 3 semaines avant, le 2 novembre 1956, et l'URSS. Et c'est une finale gagnée par les Hongrois, mais qui finit dans un bain de sang. On appelait ça la piscine rouge. Les médias américains ont fait vraiment des...
C'est-à-dire un bain de sang.
Un bain de sang, ça veut dire qu'il y a eu des bagarres générales, l'arbitre a dû interrompre la rencontre. Les Hongrois ont mené 4-0, ils seront champions olympiques. La Hongrie est un pays où il y a beaucoup de lacs et beaucoup de thermes, et donc on pourrait dire, les Hongrois, c'est en water polo, je crois qu'ils ont gagné 80% des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Ils ont même gagné dernièrement en 2000, 2004, 2008, etc. Ils sont favoris pour Paris, enfin, sans doute, oui. Donc les Russes sont troisièmes, on les voit sur le podium. À l'aéroport, pour les Hongrois, quand même, c'est difficile parce que certains partent aux États-Unis, c'est l'exil. Même par exemple pour leur meilleur joueur, Zadar. Et pour d'autres, c'est le retour au pays en raison de possibles répressions. Donc ils sont obligés de revenir dans leur pays. Donc 56, ça reste comme cet épisode-là, très important. C'est l'Australie, avec une star de la natation australienne, Betty Kilbert, 3 médailles d'or. C'est la naissance quand même de la natation australienne qui s'impose, qui commence à s'imposer face aux États-Unis. Parce que quand on parle natation, c'est toujours un duel entre le gros potentiel américain et les stars. Il y a eu de grandes stars de natation australienne, on verra plus tard. Et puis la France qui gagne avec Mimoun en 56, le marathon. Impressionnant. Mimoun, enfin, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze en 52 et en 56. Et là, le Graal, il devient champion olympique sur un circuit qui faisait 20 km aller, 20 km retour. Il faisait 30 degrés. Et Mimoun l'emporte grâce à la chaleur.
Pourquoi c'était Alain Mimoun, hein, c'est pas son prénom. Alain. Pourquoi grâce à la chaleur?
Eh ben parce qu'il aimait la chaleur, Mimoun.
Ah oui, donc il était parfaitement adapté au temps.
Voilà. Alors on a écrit beaucoup sur Mimoun. Ouais. Hein, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai toujours aimé Mimoun. 28 ans après El Wafi, notre Algérien vainqueur d'Amsterdam, dont on a parlé la semaine dernière. Oui. Lui, qui est aussi né. Dans le département d'Oran, en Algérie. Il est né en 21. Il était l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Sa famille était des saisonniers agricoles. Ça n'a pas été évident pour lui. Il est engagé dans l'armée française en 43. Il participe à la campagne d'Italie dans une division d'infanterie algérienne d'un corps expéditionnaire qui était commandé par le maréchal Juin. Et il est surtout blessé lors de la bataille du Mont Cassin. Le Mont Cassino, le 28 janvier 1944. Normalement, il évite l'amputation de peu de sa jambe gauche, de justesse, et il gagnera une croix de guerre, etc. Et normalement, il est fini pour le sport. Parce qu'il est. Il devient garçon de café au Racing Club de France. Il courait, certes, mais c'est quelle énergie ce Mimoun. Il est quand même champion olympique. Alors, certes, la veille, il apprend la naissance de sa fille. Moi, je dis toujours que le génie a besoin du hasard, mais quand même, Mimoun, il courait jusqu'à... Il est décédé il n'y a pas longtemps, le 27 juin 2013. Il est enterré en Corrèze avec son épouse. Il avait déjà prévu de longues dates, sa tombe et tout ça. Et il incarne un peu comme Michel Jazzy, qui était dans sa chambre. Le jeune Michel Jazzy, en 56, il était dans la chambre de Mimoun. Donc Jazzy a appris de Mimoun. Il incarne ce qu'on appelle la course à pied à la française, quelque part.
On fait une première pause musicale, Gilles. On écoute Arita Chang qui nous chante les JO. Arita Chang qui est disparu il y a quelque temps. C'est pas si vieux, je crois, je ne sais plus. Arita Chang, les JO.
serait chouette les Jeux Olympiques, tous ces athlètes dans la foulée, pour un marathon fantastique, à la seule force du bonheur. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, l'émulation sur la 102. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, si nom de Dieu il n'y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, cacadois des frontières. Leur petit drapeau pour chaque nation, qui claque au vent d'une musique militaire. Ce serait chouette les souvenez-vous, les n'oublie pas que la guerre est conne, les recueillements sur les trous, où les soldats fusillés dorment. Ce serait chouette les souvenez-vous, les manifestations de paix. Ce serait chouette les souvenez-vous, si nom de Dieu il y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, leur petit tambour qui donne la cadence. Leur petit drapeau, leur petit fanion qui claque au vent d'une minute de silence. Ce serait chouette d'aller sur la lune, plus qu'à fondre le Pierrot. J'y emporterai bien ma plume pour vous écrire quelques mots. Ce serait chouette d'aller sur la lune, en vacances pour mille étés. Ce serait chouette d'aller sur la lune, si nom de Dieu il y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, pour cette fois, ricain de préférence. Leur petit drapeau, leur petit fanion, leurs petites étoiles, la grande ours en balance. Ce serait chouette si tous les drapeaux voulaient bien se donner la hampe. Ça ferait des pyjamas très beaux, des soutiens-gorge pour les vampes. Ce serait chouette si tous les drapeaux finissaient un jour drap de lit. On y ferait l'amour bien au chaud avec les filles de leur pays, avec les filles de leur pays, avec les filles de leur pays.
Voilà, c'était Henri Tachant. On n'est pas sorti de notre sujet principal, le sujet que nous traite Gilles Labourois, à savoir les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, et nous étions restés en Australie avant cette pause musicale, et nous poursuivons notre remontée, notre périple dans l'histoire. Et surtout, on parle, vous parlez, et on sent que vous les aimez, ces champions, parler beaucoup de leurs histoires particulières, parce qu'aucun n'a une histoire très banale.
Non.
C'est ils soit de l'ascension sociale, soit des fortes personnalités, ou des gens qui ont eu des accidents de vie.
Voilà. Et ce sont la résilience.
Voilà, ce sont des combattants tous.
Tout à fait. Hein. Et ils vont apparaître surtout maintenant dans les années 60.
Alors là, nous étions à
nous sommes à Rome.
Nous sommes à Rome. Nous passons de l'Australie à Rome.
Voilà. Rome. On revient sur les Jeux de Rome en 1960. Donc c'est les Jeux dont on a dit un peu que c'est les Jeux de la foi dans l'avenir. Parce que d'abord, il y a de nouveaux pays qui apparaissent. C'est des nouveaux pays liés à la décolonisation, comme par exemple l'Éthiopie, on le verra tout à l'heure. Et puis, le pape Jean XXIII, il bénit les Jeux. On a l'impression que vraiment, tout va bien se passer. Et justement, ce qu'il faudra retenir...
Tout va bien se passer parce que le pape a béni les Jeux.
Sans doute, oui. Bah oui, bien sûr. On sent quand même que les stigmates du fascisme sont encore présents. Ouais. Foro Italianico, c'est quand même des choses qui sont issues de chez Mussolini. Les grandes infrastructures, elles sont là quand même. L'URSS que nous avons vu tout à l'heure l'emporte devant les États-Unis, avec une gymnaste russe très importante, Larissa Letinina. Et l'Italie va tirer son épingle du jeu. Elle finit troisième au niveau des médailles. Alors que, je vais vous le dire, on en parlera tout à l'heure, la France, elle, n'obtient aucune médaille. Enfin, aucune médaille d'or. Elle obtient 5 médailles, mais aucune médaille d'or. Ce qui fera dire Jacques Faisan mettant en scène le général de Gaulle en disant il va falloir que je me mette à faire tout, quoi. On y reviendra.
L'Italie, ça fait un bon moment qu'elle n'a pas atteint un score pareil.
1932, Los Angeles, oui. Avec cette fameuse communauté italo-américaine. 1932.
Ouais. Oui, mais ça, c'est dans le passé.
C'est dans le passé, mais on en avait parlé la semaine dernière.
Oui, on en avait parlé, voilà. Mais Après, aujourd'hui, l'Italie, bon, ils sont un peu comme nous. Hein.
Oui.
Ils ne flambent pas, si je puis dire.
Voilà. Alors, je pense qu'il faut, il faut s'arrêter sur un Éthiopien qui a gagné le marathon. C'est la première médaille d'or de l'Afrique dans les Jeux. Et il s'appelle Abede Bikila. Donc, je pense que vous avez...
Oui,
Abede Bikila, donc je vais vous conter un peu son histoire.
Bah, c'est Baptiste, voilà. Je n'avais pas rappelé que nous avions toujours autour de la table nos étudiants de l'IAJT, l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Et là, c'est Mathis, apparemment, qui a planché.
Exactement.
Et alors, qu'est-ce que ça donne, Mathis?
Ben, ça va vous donner l'histoire de Abede Bikila. Abede Bikila, c'est un Éthiopien qui est né le 7 août 1932 à Jado, en Éthiopie, donc. Petit clin d'œil de l'histoire, il est né le jour du marathon des Jeux de Los Angeles. Donc, un petit clin d'œil du destin. Passionné d'athlétisme depuis enfant, plus tard, il s'engagera dans la garde impériale. Il y devient moniteur d'éducation physique et se voit octroyer un entraînement encadré par les plus hautes instances de l'État. Il devient donc un athlète et son nom commence à résonner par-delà ses frontières dès 1959. C'est donc en 1960, à Rome, qu'il participe aux Jeux Olympiques, en Italie donc. Et dès les premières visites médicales, le monde du sport occidental s'impressionne. Le coureur court pieds nus. Ils essaient alors de lui trouver chaussures à son pied, mais ce sont les souliers qui lui créent des ampoules. Donc tout est chamboulé, et c'est pieds nus qu'il courra le marathon de nuit et qu'il le remportera. En 2h15 minutes et 16 secondes, il établit même un record mondial. Son accélération près de l'arc de l'Obélix d'Ascoum et son arrivée à l'arc de Constantin, ils ont une résonance qui dépasse le sport, puisque 25 ans après l'invasion de son pays, l'Éthiopie, c'est en Italie, donc chez le pays hôte, qui a envahi l'Éthiopie, qu'il remporte sa médaille. Une vengeance qui amènera aussi le sport africain à un autre niveau. De plus en plus de pays participeront aux Jeux par la suite. Et sa discipline connaîtra une hégémonie des pays de l'Afrique de l'Est, jusqu'à aujourd'hui encore. Abede Bikila a mis l'Afrique sur la carte internationale du sport. Avec son exploit, il a fait avancer l'histoire des Jeux Olympiques et des mentalités occidentales vis-à-vis des sportifs étrangers. Et à noter qu'il a encore remporté et établi un nouveau record lors du marathon suivant des Jeux Olympiques de Tokyo, 1964, mais avec des chaussures cette fois-ci.
Alors Gilles, on peut courir avec ce qu'on veut au pied. Dernièrement, il y avait un problème d'un athlète, je pense, paralympique, qui avait des lames et qui lui permettait d'aller extrêmement vite, aussi vite que, je crois, quelqu'un qui avait toutes ses capacités. Oui. Où en est la
maintenant, il y a une réglementation.
Oui, il y a une réglementation. Ça veut dire que tout le monde court à peu près dans les mêmes conditions.
Mais à l'époque, Bikila, berger... n'avait pas de chaussures, ne connaissait pas du tout. Voilà.
Mais est-ce que ça constitue un avantage? Pas forcément.
Non, mais ça a une forte symbolique. C'est énorme comme symbolique. C'est comment tout un symbole. En courant pieds nus sur la Via Appia, ces pavés romains millénaires qui recouvrent les premiers chrétiens martyrs, ils rappellent le Christ à Jérusalem, lui aussi marchant pieds nus. Donc,
il n'y a pas eu de lavement de pieds à l'arrivée.
Non. Enfin, il devient... tout à l'heure, on parlait de... on parlait de Jean XXIII, mais l'Église catholique est marquée à l'époque, parce que Bikila, il devient un peu... Il tourne la page du fascisme et de la colonisation, et il devient un peu une icône de l'Église catholique, et qui prépare Vatican II.
On appelle de la récupération.
Ouais, je dirais pas jusque-là, mais l'avenir de l'Église passera dorénavant par l'Afrique, par les pays du tiers-monde. Mais dans ce qui est remarquable chez Bikila, c'est que il a eu quand même un père qui l'a aidé. C'est un entraîneur de la Croix-Rouge suédoise, qui était en Éthiopie, qui était passionné d'athlétisme. Il s'appelle Onni Niskayen. Et en 1959, il avait découvert ce joyau qu'était Bikila, quoi.
Et donc, il va l'entraîner.
Il va l'entraîner, oui. Parce que quand il fait, comme l'a rappelé Matisse, le marathon de Rome, il ne devait pas le courir. C'est au dernier moment, un coureur éthiopien était blessé, il l'a remplacé, quoi. Donc, c'est vraiment un phénomène, comme vous dites, pas de chance, mais de destin, souvent. Voilà, vous savez bien ce que le sport, c'est surtout ça, quoi. Et puis bon, la symbolique aussi, elle est très forte. Ça a été rappelé, l'Italie fasciste de Mussolini a voulu en 1935-36 envoyer de l'art d'obélisque, là, de, justement, de l'obélisque d'Aksum, qui sera d'ailleurs restitué à l'Éthiopie, avait envoyé ses troupes coloniales contre les armées éthiopiennes. Les armées noires, parce qu'en 1895-1896, à Doha, les armées noires avaient battu l'Italie. Et en 1935-1936, le père de Bikila a été victime de gaz moutarde et d'exactions énormes de la part de l'armée de Mussolini. Quoi. C'est aussi des symboles qui se retournent un petit peu. C'est, voilà. Bikila, ça reste quand même quelque chose de beau à raconter, puisque finalement, en 1964, il a appris à lire et il met des chaussures, il devient champion olympique à Tokyo. En 68, il retente aussi sa chance, en 68, mais il est blessé. Et puis surtout, il a une vie, il finit très mal, Bikila. Il est victime d'un accident de la route, il est transféré sur l'ordre des laissés-lassiers en Grande-Bretagne. Il a un diagnostic énorme à la fin, une fracture de la colonne vertébrale. Finalement, l'homme qui pouvait courir 50 km sans fatigue, sans être essoufflé, ne pourra plus marcher. Et il meurt le 25 octobre 1973 d'une hémorragie cérébrale. Il n'avait que 40 ans, 41 ans.
Ah oui, il n'en a pas profité beaucoup.
Voilà. Donc,
Et est-ce que c'est le résultat d'efforts physiques démesurés ?
Non. Il pouvait vraiment courir. C'était un berger au départ et il a été sergent de la garde du Négus. Donc c'était son entraînement quotidien. Ils avaient des qualités intrinsèques, les Éthiopiens. On le voit bien maintenant. Bikila, c'est un phénomène en 1960. Mais je pense qu'il y a deux autres phénomènes en 1960. Il y a Vilma Rudolph, la sprinteuse noire américaine, qu'on appelle la gazelle. Elle est championne olympique sur 200 mètres et 4 fois 100 mètres. Elle détient le record du monde des deux spécialités. On l'a appelée la gazelle noire, terme que on redonnera à Marie-Jo Pérec en 1992.
Oui, tout à fait.
Mais elle a eu aussi une vie extraordinaire, Vilma Rudolph, née à Clarksville, dans un ghetto noir, dans le Tennessee. Elle est 17e d'une famille de 19 enfants. Et elle est issue d'une famille donc modeste. Son père est porteur de bagages à la gare. Sa mère est femme de ménage. Et on dira que les dieux de l'athlétisme ne l'ont pas aidée, hein, puisqu'elle connaît une enfance marquée par des maladies, des doubles pneumonies, des scarlatines, et surtout une poliomyélite qui doit normalement la priver de l'usage de ses jambes. Et c'est grâce aux soins et aux massages de ses membres de sa famille, donc de ses frères et de ses sœurs, qu'elle retrouve finalement, comme par enchantement, l'usage de ses membres inférieurs. C'est extraordinaire. Et donc, je dis que Vilma Rudolph reste vraiment un grand symbole. Par certains côtés, elle me rappelle Joséphine Baker. C'est-à-dire, ce sont vraiment des parcours de femmes qui refusent de capituler et qui choisissent de devenir maîtres de leur destin. C'est incontestable. Et elle aura une vie pas facile non plus. Elle aura des problèmes de racisme, une vie privée tumultueuse à la fin de sa vie. Elle atteint même le fond du gouffre en 67 en perdant son travail d'institutrice. Elle est grièvement blessée d'un accident de la route. Enfin, vous voyez, souvent des destins de champions qui finissent très mal.
Ça pousse pas quand même avec ce que vous nous racontez à faire du sport de haut niveau. Ils finissent tous mal.
Ouais, mais c'est les légendes, ces destins-là de légendes. On les aime, donc on les raconte, parce qu'elle finira, elle aussi, hein, elle décédera à 45 ans suite d'un cancer en 95, c'est jeune. Mais c'est des destins exceptionnels, c'est pas le destin du commun des mortels qui fait du sport un peu tous les jours quand même. Voilà.
Alors Rome, après Rome, Gilles.
Après Rome, on va quand même rester à Rome encore un petit peu.
Oui, un petit peu encore.
Oui, parce que je voulais vraiment parler d'une autre icône, c'est Mohamed Ali, qui est... champion olympique des poids lourds en 60 à Rome. Et l'histoire de Mohamed Ali, je vais vous la raconter en 10 secondes, mais vraiment, elle m'impressionne toujours aussi, parce que, bon, au départ, il s'appelait Cassius Clay. Hein, chaque esclave un peu afro-américain à l'époque avait portait le nom du patronyme du sénateur Clay du Kentucky qui possédait sa famille. Et il devient Mohamed Ali parce qu'il change à 22 ans il rejoint une organisation musulmane, l'organisation Nation of Islam, en 1965, au moment de sa conversion à l'islam. Il est entraîné par le fils de Elijah Muhammad, donc celui qui a inventé, qui a mis sur place ce mouvement. Un mouvement qui allait de pair aussi avec le mouvement des Black Muslims de Malcolm X. Hein, donc on est dans cette période-là. Et d'une manière générale, Mohamed Ali, il devient champion du monde, des poids lourds, professionnel, en battant Sonny Liston. Et il est surtout critiqué par le fait de son refus d'être enrôlé par l'armée américaine pour faire la guerre au Vietnam. Il avait cette phrase quand même qui est pas mal. Hein, « Aucun Vietcong ne m'a jamais traité de nègre. » et finalement, il renonce à ses titres parce qu'il est exclu par la Fédération américaine. Et à l'époque, émerge quelqu'un qui est un autre boxeur qui, lui, sera champion olympique des poids lourds en 64 à Tokyo. C'est Joe Frazier. Et il y a eu un grand match.
Qui était noir aussi.
Qui était noir, qui était... qui était vraiment, Joe Frazier, j'aime beaucoup son parcours parce que il a quitté l'école à 13 ans, il est fils de métayer pauvre, on est en Caroline du Nord, il travaille pour une fabrique de Coca-Cola, il travaille dans un abattoir de Philadelphie avant de commencer la boxe. Et paradoxalement, à Ali, il ne s'engage pas dans des partis politiques, il n'a aucun ressentiment à l'égard de l'homme blanc. Il est pour l'intégration, il est devenu père de famille de 4 enfants. Voilà. Alors qu'on pense qu'Ali a fait une OPA sur les minorités, lui, il reste quand même quelqu'un. Il aidera Ali. Frazier ira voir le président Nixon, va donner de l'argent à Ali, va aider Ali, Mohamed Ali. Mais Mohamed Ali se montrera ingrat. Je le trouve parce qu'il le traitera donc le tome, signifiant un noir soumis au blanc. Il y aura eu vraiment des animosités entre ces deux boxeurs. Mais moi, j'ai une sympathie pour Joe Frazier. C'est drôle parce que finalement, quand on voit la fin de vie de Mohamed Ali qui allume la vasque olympique en 96 à Atlanta, il est victime de, il a la maladie de Parkinson, il meurt 10 ans après en 2016. J'ai quand même plutôt de la sympathie. C'est pour ça que je faisais un clin d'œil Mohamed Ali, Joe Frazier. Et puis on finira peut-être les années 60 à Rome, qui me semble être de grands jeux. Non pas pour la France. La France, c'est 0 médaille d'or.
Ah oui, là, carrément.
Voilà, c'est rien. C'est là où on s'aperçoit, la France, que c'est là où De Gaulle prend la mesure de l'échec français. Il va commencer par créer une délégation générale à la préparation olympique. Il nomme un haut fonctionnaire, Maurice Herzog, le vainqueur de l'Annapurna, la chenale.
Qui n'avait pas tous ses droits, d'ailleurs. Mais
voilà, exactement. Il restera là de 58 à 66. Le sport au service des années de reconstruction de la France. Et là, on récupère quand même des cadres qui sont... On est en pleine guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine vient de se finir. Il y a des cadres sportifs qui sont issus de ces champs de bataille qui vont essayer de construire un petit peu la structuration du sport en France. Sinon, on découvre quand même des Sénégalais qui ne sont pas encore Sénégalais. Aboudalaï Sey, qui gagne une médaille de bronze sur le 200 mètres. On s'aperçoit qu'il est noir pour la France. C'est là où... ce n'est pas non plus une surprise. Hein. Je le dis souvent, combien de gens ont apporté à la France, si vous voulez. Il n'y a pas que des sportifs. Issus de l'immigration.
Au chemin des dames, voilà. C'est sûr que là...
Pour cette époque, c'est vrai, je parlais...
Les tirailleurs sénégalais ont payé quand même le prix, là.
Tout à fait. Et il faut imaginer que le premier international noir en football en 1931, c'est Raoul Diane, dit l'araignée noire. C'était un défenseur droit. Et c'était l'ami de Joséphine Baker, j'en parlais tout à l'heure. Il était de mère guyanaise et de père sénégalais. Et son père, Blaise Diane, était député. Et sera ministre lors de l'exposition coloniale de 1931. Donc c'est tout un symbole. C'est tout un symbole parce que c'est là où on découvre, on le découvre maintenant, mais à l'époque, vous voyez, il n'y a pas que Joséphine Baker. Moi, je cite toujours Missak Manoukian aussi, Elsa Trioulé, Toussaint Louverture, El Wafi qui gagne en 28 le marathon d'Amsterdam. On avait un peu oublié que la France est un pays d'immigration, quoi.
Oui, on est tous plus ou moins, on a tous des racines un peu lointaines.
Voilà, tout à fait.
Il est bon de le rappeler, surtout à cette époque-ci.
Et surtout dans le sport.
Voilà. Donc voilà. Rome, exit.
Exit, Rome.
Et nous nous retrouvons quatre ans après.
Oui, à Tokyo.
À Tokyo, au Japon, là où on a le kimono et on pratique le judo, c'est ça?
Oui, tout à fait. Pour le Japon, c'est une rédemption. C'est une réhabilitation du Japon comme puissance économique. Le dernier relayeur, Sakai, de la flamme olympique, c'est un rescapé d'Hiroshima. Et celui qui ouvre les Jeux, il aurait pu être un criminel de guerre jugé par la nation mondiale, c'est Hirohito, c'est lui qui ouvre les Jeux. D'accord. Donc, c'est le judo qui apparaît lors de ces Jeux. Est-ce que c'est normal? Oui, le judo, c'est...
Mais il n'y avait pas que le judo, quand même.
Il n'y avait pas que le judo.
Mais c'est lui qui est mis en avant.
C'est lui qui est mis en avant parce que c'est la première fois qu'il apparaît. C'est une religion.
C'était la première fois.
Oui, c'est la première fois. Et les judokas japonais sont normalement les meilleurs du monde. Ils vont remporter toutes les médailles, sauf une, la plus importante, celle des poids lourds. Et c'est un Hollandais qu'on appelle la Montagne Blanche, 1m98, 115 kg, un apprenti maçon. Il s'appelle Anton Gezin et il crée une grosse humiliation pour le Japon puisque le 23 octobre 1964... il bat par immobilisation le japonais qui s'appelle Kaminaga. Il y a des japonais, enfin je fais juste une parenthèse, mais il y a des japonais qui perdent, on ne les voit plus.
Ils se font harakiri.
Voilà. Celui du marathon, par exemple, en 64, on parlait tout à l'heure de Bikila, qui l'emporte. Oui. Il bat un Américain, Ives, qui au dernier moment bat Tuburo Kaya, un japonais. Et ce japonais-là s'est suicidé après le marathon de Tokyo.
Ça, c'est de l'implication. Hein.
Ouais, c'est,
si
c'est
nos,
ça.
Si tous nos athlètes qui vont perdre étaient contraints au suicide,
non, quand même.
Les entraînements seraient peut-être plus suivis.
Voilà. Alors, le judo, je fais juste un clin d'œil à notre ami Pierre de Coubertin. Il avait été enseigné à l'époque est fondé, on va dire, la première école de judo, le Kodokan. Il est fondé à Tokyo en 1882 par un homme qui s'appelle Jigoro Kano, qui siégeait au Seiyo en 1909 et qui était un ami de Pierre de Coubertin. Donc vous voyez, il y avait un lien pour que quelque part, un jour, le judo, et c'est normal, le judo, c'est quand même... Le judo, c'est l'art martial par excellence au Japon, c'est incontestable. Et on dit souvent que c'est une légende, mais moi je la crois vraie. On disait qu'il a plutôt été inventé il y a longtemps avant, 1733. Un moine, en observant la neige tomber sur les branches d'un saule, avait remarqué que les branches les plus raides cassaient sous le poids de la neige, alors que les branches les plus souples se courbaient, puis se redressaient. Finalement, la souplesse et l'adaptabilité plutôt que la résistance.
La fontaine, hein, le chêne et le roseau, voilà. Je plie mais ne romps pas.
Voilà. Voilà. Donc, pour la France, ce n'est pas très glorieux.
Oui, c'est le moins qu'on
puisse. Une seule médaille d'or.
Oui.
Pierre-Jean Cardoriola. Il remporte le dernier jour le saut d'obstacle individuel.
Voilà.
Le dernier jour. Herzog avait annoncé qu'il n'y aurait aucune médaille. Donc, vous imaginez que Pierre-Jean Cardoriola, qui était plutôt...
Le Perpignanais.
Le Perpignanais, exactement.
Dont on voit encore la cave sur le long du périphérique de Perpignan.
Voilà, alors, plutôt anti-gaulliste, refusa de serrer la main de Maurice Herzog.
Franchement, d'extrême droite, surtout.
Oui, voilà.
C'est vrai. On peut le dire.
Oui, c'est vrai. Voilà, nous sommes... pour 1964, Tokyo. Et nous sommes dans les temps, Jacques.
On a tout à fait le temps. 60, avant d'arriver à 68, je vous propose de. On a parlé de Cassius Clay, Mohamed Ali.
Mohamed Ali.
On pourrait écouter Yves Montand qui nous chante Battling Joe pour rester dans le même thème.
Très bien.
Village noir de charbon dans les cheminées et les corons. Tout petit, il battait ses copains, il était fier de ses deux poings. Presque autant que son père, le mineur, qui disait ça fera un boxeur. Le jour de son premier combat, fallait un nom, il n'en avait pas.
comme la mode était à l'anglais, il s'appela Battling Joe. Battling Joe, c'était un peu démesuré pour un gosse aux épaules étroites, mais qui avait une méchante droite. Le Battling Joe, il gagna son premier combat, et le soir même avec papa, il prenait le train pour Paris, où un boxeur, ça vaut son prix. Battling Joe.
Battling Joe, vainqueur par KO, 8e reprise. Battling Joe, vainqueur par KO, 6e reprise. Battling Joe, vainqueur par KO, 2e reprise. Battling Joe, face au titre européen.
Battling devint un grand champion jusqu'au triste soir où un nion lui embrouilla soudain les yeux. Le manager dit, c'est pas sérieux, tu deviens feignant, fais ton métier, boxe à rime pas avec pitié. La foule eut peut-être tort ce soir-là de siffler la fin du combat. Malgré les lampes et leurs éclairs, Battling Joe, hey Joe, Joe, ne voyez plus clair. Battling Joe, c'est un nom maintenant oublié, une triste silhouette qui penche, appuyée sur une canne blanche. Battling Joe a tout perdu en un seul soir, ses yeux sont titrés son espoir, mais il sait comme consolation, son manager a d'autres champions. Battling Joe.
Voilà, Battling Joe, Yves Montand, et nous revenons dans les Jeux Olympiques, qu'on n'a pas vraiment quittés, hein, avec Gilles Labourroir, notre spécialiste, qui nous raconte l'histoire des, finalement, l'histoire des athlètes, l'histoire des Jeux, qui, oui, on le voit, n'est quand même pas un long fleuve tranquille. Oui. Alors, on avait abandonné Tokyo, et de Tokyo, on fait un grand saut.
Vers la capitale d'un pays en voie de développement, Mexico.
Mexico, voilà, la hauteur, peut-être pas trop de pollution à l'époque encore, moins qu'aujourd'hui, certainement.
Oui, quand même, on est à 2000 mètres d'altitude.
Oui, donc là, ça doit peser sur les organismes, oui, ça peut être évident pour les athlètes.
D'ailleurs, Colette Besson sera entraînée à Font-Romeu avant d'aller à Mexico. Oui. Pour, voilà. Mexico, c'est quand même le contexte de 68. C'est un contexte tendu. On rappellera.
Même à Mexico.
Oui, Mexico, il y a eu ce qu'on appelle une semaine avant les Jeux, sur la place des Trois Cultures, des manifestations et près de 300 morts. Donc.
Oui, c'est quand même pas rien, 300 morts.
Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et. Mais on sent que c'est comparable aux Jeux de 36 et que cela peut exploser à tout moment. On est en pleine guerre du Vietnam. Le 4 avril 68, il y a eu l'assassinat de Martin Luther King à Memphis. Donc, on vient de parler de la répression du pouvoir mexicain contre les étudiants. L'invasion de la Tchécoslovaquie aussi, en 68. Et là aussi, clin d'œil, une gymnaste tchèque, Vera Kaslaka, gagne 4 médailles d'or. Et l'Allemagne avec 2 représentations. Hein, depuis 49, il y a 2 Allemagnes. Donc, on est dans un contexte international très sévère, mais ce qu'on retiendra de Mexico, c'est surtout les points levés au podium de Tommy Smith, le vainqueur du 200 mètres, point droit, et tête baissée, évidemment. Et le
qui avait fait scandale à l'époque.
Qui avait fait énormément scandale à l'époque, qui avait, qui avait déstabilisé, jusqu'aux plus hautes instances du CIO, quoi. Tommy Smith, c'est vraiment quelqu'un d'assez particulier, et encore plus particulier, le troisième, John Carlos. Bon, Tommy Smith, lui, il est né le jour du débarquement américain en Normandie, le 6 juin 44, à Clarksville, au Texas. C'est le 7e enfant d'une fratrie qui en compte 12. Il a bien failli ne pas survivre à la suite d'une pneumonie contractée durant les premiers mois de sa vie. Et ses parents travaillent durement dans les plantations de coton du Texas. Il avait poursuivi des études de sociologie à l'université de San José, Et c'est à l'époque où il rencontre John Carlos. Alors lui, John Carlos, c'est un peu à l'opposé. Il est né à New York, dans un quartier de Harlem, un an plus tard, en 1945. Il a rapidement un don pour l'athlétisme, mais il est très fantasque, il est excentrique, il est proche de Michael Mix, le leader radical noir américain. Autant Tommy Smith a été officier de réserve pour payer ses études. Oui. Mais on sent quand même que ce qui se passe là, c'est l'émergence des droits civiques aux États-Unis. Sur le podium, cette image a fait sensation, quoi. Elle a fait le tour du monde, même encore aujourd'hui, elle reste comme quelque chose qui a chamboulé un peu les Jeux, puisque même le président du CIO à l'époque, c'est un Américain, Avery Brundage. C'est un président très conservateur, pour ne pas dire réactionnaire.
C'est toujours été un peu le cas.
Oui, ça a été un peu le cas. Après, lui a succédé Antonio Saramanche, l'Espagnol. On verra, c'est aussi un conservateur, mais on verra dans d'autres domaines. Alors, suite à ce podium, on dit à Smith et Carlos de quitter les Jeux dans les 48 heures, sous peine de voir toute la délégation américaine suspendue.
Donc, il n'a pas le choix,
il y a des tractations. Même on fait appel à Jesse Owens, le médaillé de Berlin 36. Il est dépêché pour calmer les esprits, mais bon, il se fait renvoyer, quoi. Donc, la tension est énorme. Tous les athlètes noirs américains veulent boycotter, veulent s'en aller. Lee Evans, Bob Beamon, par exemple, lui, qui rentrera dans l'histoire par un saut phénoménal le lendemain. Lui, bon, il reste, mais il y a de la rage, quoi. En tout cas, Tommy Smith, comme John Carlos, sont exclus des Jeux et ils ne reviendront jamais sur une piste. Ça, c'est sûr. Et il faudra que... ils soient réhabilités, ils seront réhabilités en novembre 2019 au cours d'une cérémonie à Colorado Springs et par un président qui s'appelle Barack Obama et donc qui a dirigé le pays pendant 10 ans. Et donc voilà un peu cette histoire. Mais moi je dis toujours que dans cette photo il y a quelqu'un qui est le deuxième, qui est un Australien, Peter Norman. Il est médaille d'argent, c'est un homme blanc sur la photo. Il ne lève pas le bras, mais il est sympathisant avec eux. Il sympathise avec eux. Il répond que en effet, en tant que il est militant chrétien, il s'intéresse à la cause des terres sacrées des aborigènes chez lui en Australie et il s'identifie un petit peu à Tommy Smith et John Carlos. Et lui sera vraiment exclu par la fédération australienne. Il ne participera pas aux Jeux de 72. Il finira ses jours dans la gangrène, la dépression, l'alcoolisme. Et à son décès en 2006, il faut le savoir, les deux sprinteurs américains, Tommy Smith et John Carlos, sont tenus à porter son cercueil. Voilà. Donc, 68, c'est quand même cette image-là, avec le saut de Beamon, et aussi quand même un boxeur qui est champion olympique des poids lourds, qui va émerger aussi dans l'histoire entre Mohamed Ali et Joe Frazier. Il s'appelle George Foreman. Il est vainqueur des lourds, et lui c'est un paradoxal, il brandit sur le ring un petit drapeau américain, comme s'il était un peu contre le message de Schmidt et de Carlos. Mais l'Amérique, qui vraiment en 68 gagne l'ensemble des médailles, est représentée aussi par Fosbury au saut en hauteur. Il saute pour la première fois sur le dos. Bon, je ne rentre pas dans les détails.
Oui, parce qu'avant, on sautait en ventral, ciseaux, comme on disait.
En ciseaux, comme le faisait Micheline Ostermeyer. Ouais. Et après, en ventral. Presque la méthode socialiste, la méthode Brunel.
Pourquoi socialiste ?
Parce que c'était une domination russe, totalement russe. Valérie Brunel détenait le record du monde. C'était un russe qui avait adopté cette technique-là. Et donc Fosbury, il change. Il change un peu tout, quoi. Il saute et il annonce le saut sur le dos. Fosbury, lui, par contre, il vient de la middle class américaine. Hein. C'est une autre tradition. Il est réquisitionné quand même pour rejoindre les forces armées pour la guerre du Vietnam, mais bon, il est réformé pour raison médicale. Hein. C'était pas son le patriotisme, c'était pas le fort à l'époque. Mais enfin, bon, c'était tendu aux États-Unis, il faut le dire. Il finira ingénieur des travaux publics, quoi. Voilà. Alors que, par exemple, si on regarde le destin de John Carlos ou de John Carlos, lui, il est cessé au football américain, il est souvent blessé, il finit par travailler pour Puma, et puis sa femme se suicide. Enfin, vous voyez, ce sont des histoires quand même assez dures pour l'ensemble de ces personnes, quoi. Voilà. La France, elle, par contre, il faut parler de Colette Besson. Elle gagne une médaille d'or, celle du 400 mètres. Voilà. C'est... Vous vous souvenez quand même de Colette Besson?
Ah oui, enfin, les plus anciens, oui, bien sûr.
Voilà. Donc, elle l'emporte. Et pourtant, au départ, elle avait le 23e temps des qualifiés. Ce n'était pas la favorite. Et c'est vrai qu'il y avait eu les grèves de 68. Et elle avait mis à profit toutes ces grèves-là pour aller s'entraîner à Font-Romeu, en altitude. Et elle a surpris tout son monde, puisqu'elle est championne olympique, devant une Anglaise, Lillian Bird, qui était pourtant la favorite. Je rappelle que Lillian Bird décédera à l'âge de 22 ans, en 70, d'un cancer à l'estomac.
C'est
impressionnant.
Terrible,
c'est ça qui me marque.
Une litanie d'artistes, j'allais dire. Des artistes quelque part, mais de sportifs qui finalement finissent très mal.
Oui, mais Colette Besson décédera le 9 août 2005 des suites d'un cancer du poumon. Elle termine sa carrière sportive en 77. Elle rejoint son mari au Togo comme entraîneur d'équipe nationale d'athlétisme. Et puis, elle est conseillère technique pour le sport à Tahiti, en Martinique. Elle était professeure aussi d'EPS à La Réunion et à Paris. Voilà, mais elle symbolise un peu comme Micheline Ostermeyer, vraiment la course à pied à la française, quoi. Vraiment, c'est on ne peut qu'aimer Colette Besson.
Alors ça, c'était Mexico.
Mexico, 68.
Voilà. Et nous allons arriver tranquillement en 72.
À Munich.
À Munich. Donc, on revient dans la vieille Europe, Munich, voilà. En Allemagne.
Voilà.
Et alors, celle-là, ça va être par contre assez tragique, ce qui va se passer. Politique plus dure et la plus noire va rattraper le sport.
Bien sûr. C'est ce qui nous a été raconté un petit peu. Je donne quand même que les Jeux de Munich, ça se voulait avec un dôme transparent de lumière. On voulait faire beau et décontracté. Le service d'ordre est relax. Vraiment, il y avait une amabilité de bon aloi. Munich, c'était... même on le voit dans les affiches qui ont été... on voit vraiment que Munich, ça allait être une fête. Et puis, va arriver ces fameux attentats qui vont arriver, mais j'y viendrai après. Je laisse peut-être intervenir pour ce qui s'est passé.
Eh bien oui, après Mathis, nous avons toujours Lydia qui a travaillé. Alors Lydia, de quoi vous nous parlez?
Mais justement, de l'attentat de Munich en 72. Donc, il faut déjà savoir que c'est les premiers Jeux olympiques de l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Et justement, le pays veut effacer ceux de Berlin. Ils ont été marqués par un événement tragique connu comme l'attentat de Munich. Donc, le 5 septembre 1972, un groupe de 8 personnes, membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir, a pris en otage 11 athlètes israéliens dans le village olympique. Les terroristes voulaient la libération de 234 prisonniers détenus en Israël, ainsi que 2 militants en Allemagne de l'Ouest. Les preneurs d'otages ont tué 2 athlètes israéliens dès le début de l'attentat et ont menacé de tuer les autres si leurs demandes n'étaient pas écoutées. Et donc, il y a eu une négociation qui a duré toute la journée et ça a attiré une attention mondiale et massive. Les autorités allemandes ont tenté une opération de sauvetage qui s'est terminée de manière catastrophique parce que justement, il y avait un plan mal préparé et mal exécuté dans l'aéroport militaire. Il y a eu un manque de coordination de la part des équipes et donc ça a mené à un échange de tirs. Résultat, tous les otages israéliens ont été tués, ainsi que 5 des 8
terroristes. C'est dur à dire. Hein.
Et un policier allemand. Et donc ça a suscité un choc mondial et a mis en lumière les insuffisances des mesures de sécurité lors des grands événements internationaux.
Bah, il faut toujours que ça commence à un moment ou à un autre où on se rende compte que la situation change et qu'il faut peut-être anticiper et gérer la sécurité.
Justement. Et par contre, il y a eu la réponse du gouvernement israélien. Donc, ils ont lancé l'opération Colère de Dieu. C'est des missions qui visent à traquer et à éliminer les responsables de l'attentat. Et donc, les Jeux olympiques, les Jeux ont repris direct le lendemain, comme s'il n'y avait rien eu qui s'est passé la veille. Et donc l'attentat de Munich a eu un impact sur les politiques de sécurité internationale et sur la manière dont les événements sportifs de grande importance, tels que les Jeux Olympiques, sont organisés et protégés.
Donc voilà, l'histoire bégaye, oui. On a recommencé quelques années après, dans un autre cadre.
On était vraiment...
C'est désespérant.
On était vraiment dans un rapport de guerre froide, et ça l'est toujours hein, quand même, en 112 à Munich, on l'ira avec les deux Allemagnes. Mais là, le conflit israélo-palestinien s'invite finalement. Et alors, il faut vraiment ce qu'il faut dire là, c'est que le Golda Meir, à l'époque, la première ministre israélienne, n'a pas voulu vraiment négocier. Et c'est normal. Elle avait appelé Willy Brandt, qui était le chancelier allemand, qui voulait peut-être négocier. Donc, ça finit par un bain de sang.
Oui, c'est pas trop la théorie israélienne. Voilà,
c'est,
hein,
pas la négociation. C'est pas trop la théorie israélienne. Et le CIO, dans cette affaire-là, même quand on revoit ce qui se passe en mai 48, quand il y a la proclamation de l'État d'Israël, le CIO n'invite pas l'équipe de Palestine au JO de Londres 48, et pour éviter un boycott des pays arabes, il ne convie pas non plus la délégation israélienne au motif que cet État ne disposait pas d'un comité national olympique reconnu. Donc vous voyez toutes les difficultés dès 48 pour le CIO et sa direction de se positionner. Hein. Bon, entre-temps, c'est sûr que la Palestine, qui n'a toujours pas d'État, est membre du CIO depuis 1994. Pour revenir sur la guerre froide, elle y est, elle apparaît, hein, parce que d'abord il y a les deux Allemagnes, la RDA, qui est troisième nation au niveau des médailles. On ne sait pas trop ce qui s'y passe là-bas, mais on sait qu'ils raflent toutes les médailles pour 17 millions d'habitants, 66 médailles, dont 20 titres en 72 à Munich, alors que l'Allemagne de l'Ouest n'a que 40 médailles, elle est chez elle. Importante délégation aussi de la Corée du Nord qui apparaît, avec des tirs à l'arc, etc. Et puis, les États-Unis, il y a ce fameux match de basket États-Unis-URSS, qui a un peu aussi fait couler beaucoup d'encre. Normalement, les États-Unis l'emportent d'un point, mais il y a une réclamation de l'entraîneur russe. Et puis, le secrétaire général de la Fédération internationale, un Américain, dit qu'il faut rejouer 3 secondes. Et dans les 3 secondes, les Russes l'emportent 51-50. Vous voyez, on est quand même dans une situation où, par exemple, quand on sait que Bobby Fischer détrône le champion du monde d'échecs, le russe Boris Spassky, en 72, on est toujours dans un affrontement quand même Est-Ouest très important.
Donc voilà. La guerre se continuait, comme disait Clausewitz, par d'autres moyens.
Voilà.
Et là, c'était le sport.
Voilà. Le sport, c'est la guerre sans les fusils, disait George Orwell, je vous l'ai cité la dernière fois, et je crois que c'est vrai. Ouais. Tout le monde dit ça à peu près. Hein. Voilà, je pense qu'on était sur 72.
Oui, on était à 72 et on était convenu peut-être de remettre la suite à notre prochaine émission pour arriver tranquillement sur les Jeux parisiens et peut-être faire un petit point sur ces Jeux olympiques, sur l'esprit des Jeux olympiques, sur sa perversion par l'argent, par la politique, par les conflits, par les effets d'annonce des uns et des autres. Est-ce qu'on est toujours dans ce que Pierre de Coubertin avait entendu faire, certainement pas, mais il y a quand même des athlètes de haut niveau, des gens qui travaillent, des gens qui s'entraînent et qui, eux, ne se mêlent pas de ce genre de choses et ne se mêlent pas des postures des politiques. Alors peut-être que pour eux, il faut respecter ces jeux.
Oui. Mais là, pour Jacques, excusez-moi, mais c'est vrai que vous citiez Coubertin, l'important est de participer. Mais en 72, on a peut-être oublié de citer Mark Spitz, le nageur aux 7 médailles d'or.
Nageur, oui.
Lui, l'important, c'est de gagner. Donc ça, c'est vraiment...
Ils y vont tous pour gagner.
Voilà.
On dit pas, on vise pas la médaille de bronze, on vise plus haut, c'est normal, voilà. C'est humain. Et c'est pour ça qu'ils s'entraînent.
Voilà. Et puis, on voit que finalement, vont émerger quand même les professionnels, puisqu'on s'aperçoit qu'on verra qu'avec la fin d'Avery Brundage, le président conservateur du CIO, l'Américain, donc, qui est obligé quand même de s'éclipser à Moscou, il a eu du mal à gérer l'affrontement des Noirs sur le podium. Et là, en 72, ils bâclent un peu cette réunion en mémoire pour les attentats. Donc, on voit quand même que c'est la fin d'une époque et qu'on va aller vers autre chose, quoi. Mais avec l'émergence sans doute de l'argent, voilà.
Eh bien, nous verrons la semaine prochaine comment, dans quel état sont ces Jeux Olympiques, dans quel état ils nous arrivent à Paris. Merci Gilles Labourvoir, et puis tous les deux nous remercions Léo Touroul qui était au bouton et qui a assuré la technique de cette émission. On remercie aussi Lydia et Mathis qui avaient chacun des deux travaillé leur papier, et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler de la période contemporaine, et voilà, et après nous vous laisserons devant les écrans de télévision et peut-être pour les plus chanceux, je ne sais pas si vous les appelez comme ça, en direct, pour regarder les épreuves des Jeux Olympiques de Paris. Bientôt pour ce troisième épisode, et bien sûr vous pourrez retrouver celui-ci avec tous les autres podcasts sur le site d'Esprit Occitanie. Au revoir Gilles et merci.
Merci à vous. And forgot.